Nous sommes prêts à nous entendre avec le Parti socialiste pour promouvoir une majorité démocratique et pour pratiquer au lendemain des élections une politique de progrès social et de liberté, d'indépendance nationale et de paix. Nous sommes prêts à nous entendre avec d'autres républicains s'orientant dans le même sens. Nous ferons tout pour donner à la nation le gouvernement qu'elle attend. Le peuple de France proclame hautement sa confiance dans l'Union soviétique, principale force de paix dans le monde et garante d'un avenir radieux pour toute l'humanité. Vive le 38e anniversaire d'octobre! Vive le drapeau victorieux de Marx, Engels, Lénine et Staline! Vive le communisme!
Et oui, vous êtes dans les oreilles loin du front et vous avez été nombreux à nous appeler après le premier extrait de Torres pour en demander encore, encore et encore. Et on vous en a donné un deuxième avec cette déclaration du 8 novembre 55. En guise de prémisse pour parler aujourd'hui dans le sujet du jour, de l'évolution du Parti communiste avec Bernard Pudal. Donc Bernard Pudal est professeur à Nanterre, à l'Université Paris 10, et travaille sur le communisme depuis déjà quelques années. Il a notamment écrit « Prendre parti », qui parlait notamment de l'investissement des militants au sein du Parti communiste et qui a coordonné avec d'autres le siècle des communismes. Alors peut-être pour entamer cette discussion, Pierre, tu voulais revenir sur les événements récents qui ont marqué le Parti communiste.
Oui, parce que l'objet de recherche de Bernard Pudal est gentiment en train de disparaître. Il va bientôt falloir s'investir sur d'autres terrains. C'est une blague, mais jusqu'aux dernières élections, le 6 mai 2007, pour la présidentielle, le Parti communiste faisait 1,93%, un peu plus de 700 000 voix, et perdant près de un peu plus de 150 000 voix par rapport à l'élection précédente de 2002, où Robert Rue avait lui-même déjà à peine atteint 3,5%. Comment vous analysez les résultats de cette élection ou de ces deux élections, si on ne veut pas se fixer uniquement sur ce qui s'est passé le 6 mai de cette année?
D'abord, merci de m'avoir invité. Répondre à cette question, c'est ce qu'on va faire pendant toute l'émission, dans une certaine mesure, parce que ce qui se produit en ce moment est évidemment le résultat d'une très longue histoire, en fait, qui est l'histoire du communisme elle-même. Si on veut rester sur, disons, l'actualité de cet échec ou de cette défaite ou ce repli, sans aller trop loin, on peut dire qu'il y a eu une tentative qui a échoué de mutation du Parti communiste sous Robert Rue, et que cette tentative de mutation, sur laquelle éventuellement on peut revenir après, eh bien, s'est traduite ou a été interprétée comme échouant. Donc c'est le résultat de Robert Rue au présidentiel. Du coup, une équipe légitimiste, représentant au fond les cadres permanents, les élus, le système d'action du Parti communiste a été mis en place avec Marie-Georges Buffet. Et manifestement, ils n'ont pas réussi à trouver une place dans l'échiquier politique, pas plus avec cette mutation ratée qu'avec cette mutation retardée ou différée.
Parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous pencher un petit peu sur les résultats en eux-mêmes, y compris dans les bastions du Parti communiste, là où d'habitude il y avait quand même des scores qui n'avaient rien à voir avec la moyenne nationale. On voit leur score s'effondrer et être très très souvent battu par le Olivier Besancenot, le candidat qui perd le moins de voix à l'extrême gauche.
Le comble pour le PC peut-être.
Le comble. Il y a plus de relations qu'on le croit entre l'histoire du trotskisme et l'histoire du stalinisme. Mais on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Il n'est pas sûr que le malheur des uns fasse le bonheur des autres. C'est une question qui reste largement ouverte. Il faut être très prudent en matière d'analyse électorale, bien entendu. Et ça, c'est quand même le point de départ. Et bon, parler de bastion, il est évident que le Parti communiste se replie sur les municipalités qu'il tient le plus, ce qui veut dire concrètement des municipalités dans lesquelles le personnel municipal, une partie du logement HLM, etc., lui permet d'avoir une clientèle qui lui permet de résister encore un peu au niveau des législatives, au niveau des municipales, pas au niveau des présidentielles, on vient de le voir. Donc, effectivement, là, on est à la fin d'un processus de retrécissement sur son passé, son passif, en l'occurrence, ou son actif, suivant la manière dont on veut voir les choses. Mais en tous les cas, on est là-dedans. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Les zones de plus grande résistance du point de vue électoral du PC, ça a été, dans les dernières élections, ces dernières années, qui ont été étudiées de très près, c'est l'Allier. Un département paysan. Alors, bon, on a fait des études de Savipov et d'autres sur une collègue qui s'appelle Agnès Roche. Ils ont travaillé canton par canton pour comprendre pourquoi le parti dit de la classe ouvrière, en fait, résistait dans un département paysan, celui de la Joanie, qui est cher à votre cœur, si j'ai bien compris. Le résultat de l'analyse, c'est quoi? C'est tout simplement que ce sont les départements où ce qui reste de l'ancien électorat n'est pas encore tout à fait mort. Il n'est pas mobile, puisqu'il vieillit. En fait, la vraie réponse de la résistance du PC un tout petit peu dans l'Allier, c'est le vieillissement de son électorat qui est en train de disparaître progressivement. Alors que dans les banlieues, etc., ça bouge énormément. Il y a une grande mobilité des populations, avec dans l'approche banlieue l'arrivée d'une petite bourgeoisie intellectuelle, etc. etc. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Enfin, c'est quelques éléments dans le panier.
Alors peut-être, on va peut-être prendre un peu de recul pour comprendre cette crise ou ce changement au sein du PC et revenir un peu sur ce qui a constitué la matrice du PC, en particulier cette mobilisation des militants d'origine ouvrière, on va dire. Et là, il faut remonter un peu plus loin pour comprendre cette défection actuelle.
Oui, alors ça, évidemment, c'est pour moi une question, un enjeu très très important, parce qu'à partir de ce fil-là, on tire toute une série d'autres fils. Hein. Alors, effectivement, je crois qu'il faut avoir en tête, au fond, la relative exceptionnalité du Parti communiste français. Et dans le monde occidental, d'abord, il y a eu très peu de pays occidentaux où il y avait un Parti communiste important. Il y a eu l'Italie. Mais l'Italie, après la Deuxième Guerre mondiale et à cause du fascisme, dans une certaine mesure, et très rapidement, c'est un parti qui va se social-démocratiser, si on peut dire des choses comme ça. C'est en France qu'un véritable parti communiste parvient à s'installer avec un personnel politique qui est effectivement conforme à la théorie. Après tout, la classe ouvrière doit mener le combat révolutionnaire. C'est elle qui doit guider les luttes. Et en France, probablement plus que partout ailleurs, on a effectivement, dans les années 30, progressivement, à la suite d'un énorme travail de formation, d'élimination, de marginalisation des intellectuels, de formation des militants ouvriers dans les écoles du parti, des 25-26 à Bobigny, à Clichy, qui sont des écoles célèbres, puis ensuite l'école léniniste internationale, où on envoie chaque année des militants pendant un an, deux ans, trois ans, comme Waldeck Rocher, se former au marxisme-léninisme, etc. Il y a eu un énorme travail et une réussite. Et c'est ça le problème. C'est que dans le cas français, ça réussit. C'est-à-dire qu'effectivement, après une période très difficile, dans les années 30, la direction du Parti communiste, c'est-à-dire le comité central, c'est-à-dire au moment du Front populaire, les députés, hein, 73 députés élus en 36, et on a un numéro des cahiers du bolchevisme, on voit le florilège des biographies, on met en avant le caractère ouvrier de ces militants, d'origine ouvrière ou très populaire, etc. Souvent avec d'ailleurs, ça j'y reviendrai, mais c'est très compliqué cette affaire-là, avec un maquillage des biographies. Ils sont beaucoup moins ouvriers qu'ils ne le donnent à croire. Mais enfin, c'est pour après. Mais en tout cas, malgré tout, par rapport à tous les autres partis, une extraordinaire. Alors, il faut insister là-dessus, parce que au fond, on a un parti politique qui contrarie des logiques sociales de fabrication du personnel politique qui sont d'une puissance inouïe. Il suffit de regarder le Parti socialiste, etc., etc. Ils sont, ces élites politiques comme ceux sur quoi nous joue Le Pen, hein, quand il parle de l'établissement, ils sortent tous des mêmes écoles, etc., etc. Le fait est que là, on a une sorte d'exception historique, hein, qui est tout à fait étonnante. Donc il faut la comprendre. Il faut la comprendre, et c'est pas simple de comprendre cette exception historique, parce qu'il y a des raisons qui sont liées au stalinisme, il y a d'autres raisons qui sont peut-être liées à la spécificité de l'appareil scolaire français. hein, qui est un appareil scolaire qui fabrique effectivement, à partir de la fin du 19e, une fraction, en tout cas, des enfants des classes populaires comme très bons élèves. Et comme par hasard, dans les études que j'ai faites, parce qu'il faut rentrer dans les détails, dans les études que j'ai faites sur cet encadrement dirigeant, député, membre du CC, etc., j'en passe et des meilleurs, quand on regarde de près leur passé scolaire, y compris à ce moment-là, ce sont souvent des enfants qui ont été au certificat d'études, qui ont le certificat d'études, très souvent de très bons élèves de l'enseignement primaire élémentaire. Il suffit de voir ce qu'étaient les programmes du certificat d'études primaires dans les années 20, et ça vous donne une idée, en réalité, de leur niveau culturel. Autrement dit, ce sont effectivement des enfants issus des classes populaires, on peut ensuite aller un peu plus dans le détail, mais qui ont cette particularité quasiment tous d'avoir été des enfants qui étaient de très bons élèves dans l'enseignement primaire élémentaire, qui ont souvent commencé un enseignement post-élémentaire primaire. Autrement dit, qui dans un autre contexte, d'ailleurs certains ont commencé, auraient eu une promotion sociale dans la société par des voies de la promotion sociale que vous pouvez... Et une des particularités de ces communistes, c'est donc qu'ils ont des compétences. Ou en tous les cas, suffisamment de ressources pour acquérir des compétences intellectuelles. La bibliothèque de Maurice Thorez aujourd'hui, qui est accessible sur le net, parce qu'elle est aux archives municipales d'Ivry, c'est 10 000 volumes. Mais attention, bien entendu, c'est 10 000 volumes. Certains sont des volumes en représentation, etc. etc. Mais Maurice Thorez, à la fin de sa vie, avait un ex libris. Ses livres étaient reliés et c'était des ouvrages. On peut vérifier ses lectures. C'était des ouvrages lus avec des tonnes et des tonnes de cahiers de notes qu'il prenait, etc. On a affaire à quelqu'un qui est le summum de cette réussite, qui est Thorez, et qui, effectivement, a impressionné plus d'un intellectuel. Il suffit d'ailleurs de l'entendre. Hein, ces discours ne sont pas faits par un conseiller en communication. Bien entendu, il est aidé, etc. Mais il met constamment la main à la pâte. Donc on a là une exception historique sur laquelle il faut, pour des raisons politiques, s'arrêter et réfléchir. Hein, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais par rapport à l'actualité, parce que pourquoi c'est important ? Parce qu'une des raisons, de mon point de vue, de l'échec historique du communisme, c'est que ce modèle-là, cette matrice-là, dont on peut discuter, c'est des raisons pour lesquelles elle a réussi en France avec le stalinisme, mais en tout cas, constitue ce qu'on pourrait appeler l'essence du communisme français. Et il aurait fallu, pour que le Parti communiste reste fidèle à cette histoire, qu'il fabrique un nouveau personnel politique issu des classes populaires. Or, au lieu de cela, c'est-à-dire c'est les années 60, c'est-à-dire au moment où la classe ouvrière se transforme, où l'immigration arrive d'une manière importante, renouvelée, parce que le PC a formé beaucoup d'immigrés dans les mines dans la sidérurgie, les porcus, les karazuki, etc. Tout ça, c'est de l'immigration. Donc, il aurait fallu que ce Parti communiste, au lieu de se bureaucratiser, comme il se bureaucratise, on voit très bien ça dans les grands bastions, justement, et se referme sur sa classe ouvrière qui reste fidèle, qui, pour différentes raisons, s'est construite dans cet imaginaire-là, au lieu donc de se replier là-dessus, il aurait fallu qu'il fabrique un personnel qu'il ne connaît pas, qu'il menaçait, mais dont on voit aujourd'hui qu'il manque terriblement. Il manque terriblement parce que, pour moi, en tout cas, j'attends les résultats plus précis des élections. Mais il est évident, il me semble évident en tout cas, que la relative résistance de la gauche, avec plein de guillemets, aux élections présidentielles, provient pour partie d'une sorte d'autonomisme politique des banlieues. Et en fait, cet autonomisme politique, c'est regrettable qu'il soit aussi autonome. Je ne sais pas ce qu'il donnera aux législatives. Et normalement, il y avait là tout un vivier, et il y en a d'autres, hein, un vivier aussi qui a été raté dans l'alliance avec les fractions intellectuelles des classes populaires et classes moyennes. Ça, c'est tout l'échec du programme commun, on en parlera tout à l'heure. Donc cette matrice, c'est une affaire importante, parce que pour l'avenir, éventuellement, d'une reconfiguration du Parti communiste, il serait possible, peut-être, de reconstituer quelque chose dans l'ordre du politique qui tire des enseignements de cet échec historique du communisme, et pas seulement qui se glorifie de cette fin, de ce déclin, etc. etc. Moi, je veux bien qu'on se glorifie de ça, mais ce n'est pas très intéressant. Autrement dit, c'était... j'ai terminé de là-dessus. La question de la participation des classes populaires à la politique, qui est une question que, après tout, tous ceux qui sont démocrates devraient quand même se poser sérieusement, cette question-là, dans une certaine mesure, le communisme l'avait en partie traité, en tout cas affronté, évidemment dans des conditions dramatiques, puisque ça se passe avec la mise en place d'un parti stalinien, avec le centralisme démocratique, etc. C'est ça qui est la deuxième, c'est le deuxième aspect du problème qu'il faut comprendre, mais il y a des enseignements politiques à tirer aujourd'hui de cette histoire. Hein, je pense, en tout cas. Moi, je l'espère.
Quand les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin. Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagouses, elles changeront de doigts. Quand l'homard, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier. Qu'un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou. Quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise. Alors la vie, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le bottin. Quand les gibus, ils changeront de tiette. Quand les bagouses, elles changeront de doigts. Quand l'homère, ils changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG.
La 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 la. Les PDG.
Allez, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est avec Bernard Pudal et on revient un petit peu sur l'histoire du Parti communiste. Et justement, j'aurais aimé qu'on revienne sur un des aspects du Parti communiste qu'on a évoqué, mais c'est cette dimension qui a été très fortement développée de l'éducation populaire qui prenait en compte tout un tas d'aspects de la vie, le sport, la culture. Moi, alors là, c'est pour des trucs perso, mais j'habitais dans une banlieue que rouge, en banlieue nord de Paris, et il y a un truc qui me marquait vachement, c'est que l'endroit où il y avait des livres, c'était chez les parents des copains qui étaient militants communistes. Il y avait, alors je ne sais pas, peut-être que les bibliothèques se ressemblaient beaucoup, mais en tout cas, c'était un des endroits où il y avait des livres, où il y avait des affiches, où il y avait quelque chose comme ça.
Oui, bien sûr. Là aussi, il y a toujours la face d'ombre et la face de lumineuse, si j'ose dire. Il est tout à fait exact que ce projet de fabrication d'une élite militante d'origine populaire, ça va de pair avec une politique d'éducation populaire, bon, qui va prendre de multiples formes, qui est une obsession des municipalités communistes, avec la mise en place de théâtres, de bibliothèques, avec des journées du livre, avec un encouragement, par exemple, à la lecture militante ou à la lecture personnelle, guidée, etc. etc. Ça, c'est un immense appareil. Alors, à l'intérieur du Parti communiste, c'est même une obsession. C'est une obsession, c'est-à-dire que les militants, les cadres et les dirigeants doivent être des intellectuels organiques, comme aurait dit Gramsci. Et on voit ça, par exemple, j'ai vu aux archives de Moscou, la définition du poste de l'émissaire de français auprès de l'International communiste. Donc le gars, il arrive en 1939, il s'appelle Héroldi, il est membre du comité central, et il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'être émissaire auprès de l'International communiste ? Alors on lui donne une feuille où on lui explique son poste. Et dans son poste, il y a, tous les matins, passer au moins 2 heures à lire du marxisme-lénisme, les œuvres de Marx, etc., de l'histoire de France, et on va jusqu'à lui donner le nom du manuel d'histoire. Par exemple, j'étais très étonné de voir qu'on lui conseillait de lire le manuel d'histoire de France de Lavis. Donc, parce qu'il fallait quand même qu'un représentant du Parti français à l'International communiste il soit capable de rendre compte de l'histoire du pays d'où il venait. Bon, donc, et ça, je pourrais donner des milliers d'exemples là-dessus. Donc, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, à savoir que dans les militants étaient conviés à à acheter des bouquins, des collections qui parfois étaient des collections de luxe, entre guillemets. Le parti avait une série d'ouvrages sur la commune qui coûtait très cher, vendus par le Livre Club Diderot, etc. Bon, donc ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, qui est quand même très importante, c'est que cette formation, cette culture a été formidablement contrôlée, encadrée. Et là, on ne peut pas, je crois que ce qu'on découvre d'ailleurs aujourd'hui, chaque jour un peu plus, à quel point le contrôle stalinien des modes d'appropriation de ces textes, parce que n'importe quel texte, quand il est lu en fonction d'un code. Hein, ça dépend ce que vous êtes amené à lire dans le texte. Il y a un bouquin de Pierre Bayard, assez amusant, là, qui vient de sortir, mais ça, c'est un problème classique. Et là, il y a une extraordinaire attention, comme dans l'Église catholique, au sein du Parti communiste, quant au mode d'appropriation des textes. Par exemple, les militants qui vont dans les écoles du parti ou à l'école léniniste internationale, vous avez le matin une leçon où on vérifie la bonne compréhension, mais pas au sens de ce que pourrait faire un professeur, au sens de la qualité d'orthodoxie dont le militant doit faire preuve dans la lecture des textes qu'il a pu faire la veille pour le lendemain matin. Vous avez un militant, par exemple dans les écoles du parti, l'école centrale du parti dans les années 30, qui vient de l'international communiste, parce que là on a des écoles centrales en France, qui s'appellent Glaubov, qui est donc ce qu'on appelle un communitarien, un internationaliste, et dans les écoles du parti, il vérifie la prise de notes. Parce que la prise de notes est commentée. La prise de notes dit quelque chose du rapport que vous entretenez à la doctrine, du rapport que vous entretenez au marxisme-léninisme. Le gars qui ne prend pas des notes, ou les prend d'une manière désinvolte, ou ne souligne pas les sous-titres, etc., toutes choses qu'on retrouve d'ailleurs dans l'école primaire classique, mais là, sont interprétées comme des indicateurs de distance idéologique au type de militant qu'on veut former. Et ça, c'est un gros problème. Alors, moi, je pense... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, il y a ce que vous dites. C'est-à-dire, il y a la réalité d'une diffusion culturelle tous azimuts et en même temps une sorte d'angoisse permanente au contrôle des modes d'appropriation de ces produits qu'on est obligé ou qu'on est amené ou qu'on pense qu'on doit amener sur le plan culturel aux populations du parti, militantes, mais aussi aux populations que l'on gère dans les municipalités. Donc voilà, il faut avoir les deux, si je peux dire, les deux aspects en tête et en permanence quand on traite du PC. Hein.
Et alors au final, ça donne quoi comme militant ce type de formation ? Qu'est-ce qu'on sait faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? De quel capital militant on dispose quand on sort de cette formation ?
Ouais, ça donne des choses très contradictoires. D'abord, évidemment, ça donne un formidable écrémage de tous ceux qui ne rentrent pas dans ce truc-là. On connaît très bien ceux qui restent, on connaît très mal tous ceux qui ne parviennent pas à y rester. Il y en a énormément. Il y a énormément de militants qui commencent des carrières et puis qui s'en vont. On a là, dans les archives, des éléments, des militants qui, en réalité, alors ça aussi, c'est un aspect du stalinisme. Hein, il ne faut pas regarder seulement la production du personnel politique, il faut regarder la production de ce personnel politique par rapport au personnel politique qu'on aurait pu avoir. Et là, il y a tous ceux qui ont été marginalisés, liquidés, ou parfois qui se sont reconvertis. Nous, on étudie beaucoup ça avec Claude Pentier, parce qu'on travaille sur les autobiographies que rédigeaient ces militants, ce qu'on appelait les bios, qui sont quand même des trucs incroyables, quoi. Mmh. Et vous en avez un certain nombre bon, qui orientent leur carrière, par exemple, vers le syndicalisme, des choses comme ça.
Préciser un petit peu là-dessus.
Oui, ouais, parce que c'est aussi un élément de réponse à la question précédente. Mmh. Le Parti communiste, comme le mouvement communiste, à partir des années 30, a une véritable politique des ressources humaines, des cadres militants, qui passe entre autres par tout un dispositif de surveillance, de vigilance, de contrôle biographique. Et ça, c'est un phénomène qui est assez amusant, parce qu'on connaissait l'existence de ce contrôle biographique, de ce service des cadres, mais on ne savait pas du tout ce qu'avait été, par exemple, une biographie. On connaissait les questionnaires. On savait que les gars remplissaient les questionnaires qui faisaient près de 73 questions où ils devaient rendre compte de toute leur vie personnelle, idéologique, culturelle, des engagements, avec des questions très précises. Est-ce que vous avez profité du temps de prison pour vous former, par exemple ? Et le gars qui répond non, j'étais trop déprimé, hop, c'est pas bon. Est-ce qu'on a organisé des cours, etc. Moi, je ne rentre pas là-dedans, c'est trop long. On a écrit tout un livre avec Claude là-dessus et on travaille beaucoup sur cette question. Donc, ça donne une idée du désir de maîtrise. Alors, ça, c'est quand même un des éléments du stalinisme. Et c'est à la fois une réussite et un échec total parce que c'est comme pour n'importe quoi. Le désir d'emprise totale sur quelqu'un, dans une certaine mesure, ça peut apparemment le fabriquer, mais ça le détruit en même temps. Parce que, dans une certaine mesure, le personnel politique idéal, c'est celui qui est à la fois fidèle mais combatif, critique et dans la ligne, etc. Il faudrait qu'il ait ses qualités. Alors, le Parti communiste, c'est une partie de l'échec de ce parti. C'est que, apparemment, historiquement, il réussit, et il croit qu'il réussit. Ils ont 25% de l'électorat au sortir de la guerre, ils ont je ne sais combien de municipalités, un corps de députés considérable, une reconnaissance dans le monde intellectuel que peu de partis ont, etc. Donc les apparences de la réussite du modèle stalinien sont fantastiques. Mais en réalité, c'est les apparences d'une réussite qui... Enfin, c'est une réussite qui est en partie fondée, malgré tout, sur des points de fragilité énormes, parce que ça suppose non-démocratie interne, pas de débat, etc., etc. Donc vous avez des militants qui sont à la fois extraordinairement critiques sur le monde social, dans l'usine, etc., et sur leur capacité critique est interdite dans le parti. C'est un truc qui ça va pas, quoi, j'ose dire. Alors ça fonctionne jusqu'en 56, avec l'espèce de mythe de l'Union soviétique qui est qu'on continue à entretenir, les Spoutnik ensuite après, etc., etc. Mais à partir de 56, ça s'effondre. Parce que, bien sûr, il y a le 20e congrès du PCUS, après la mort de Staline. Et puis, petit à petit, à ce moment-là, il aurait fallu que le Parti communiste soit un autre parti pour pouvoir assumer, comprendre l'histoire dans laquelle il avait été embarqué. Et bon, ils en ont été incapables. Hein, et ouais, de ce point de vue-là, ensuite, on y reviendra. Donc il me semble que ces deux dimensions... sont, enfin, il faut essayer de penser constamment cette dualité. Parce que ça explique beaucoup de la fascination qu'exercent les militants communistes. Je ne sais pas si vous étiez dans une banlieue ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai été communiste il y a très longtemps. Et c'est vrai que j'avais de l'empathie, de la sympathie pour un certain nombre de ces militants ouvriers, leurs combats, leurs luttes, etc. Et puis, au fur et à mesure que moi-même, je suis monté dans l'appareil du parti, je parlais très long, mais enfin, quand même, j'ai failli être permanent. Et petit à petit, je tombais sur les cadres staliniens. Et là, c'était plus du tout la même chose. On sentait qu'il y avait des règles du jeu interne à la direction, à la bureaucratie du parti, etc., auxquelles il fallait s'adapter. En ce qui me concerne, justement, j'ai pas pu m'y adapter. Donc je suis reparti bosser et puis j'ai repris mes études, etc. Mais il y a un moment, à 22 ans, j'aurais très bien pu ne pas faire ça, hein, et continuer dans une carrière de permanent. Voilà. C'est des phénomènes de ce genre qu'il faut avoir en tête quand on veut comprendre le PC, hein, une réussite, mais une réussite stalinienne, entre guillemets. Ce n'est pas un gros mot, hein, pour ma part. C'est un problème, plutôt, historique.
Et ben justement, quand tu fais état de ton expérience personnelle, on voit quand même que s'il y a un changement ou une rupture en 1956, toutefois, c'est cette stalinisation, quelque chose comme ça, au sein du PC, continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une rupture très marquée en 1956.
Alors ça, c'est en tout cas, moi, c'est ma thèse. Ma thèse, c'est qu'effectivement, il y a des évolutions considérables ou importantes à partir de 1956. L'extrait de Thorez en donne en partie l'explication. Le PC sort de la guerre froide, entame une politique d'union de la gauche, progressivement, qui va aboutir au programme commun, est convaincu qu'à gauche, l'expérience du Front populaire va se reproduire. Ça, c'est très important à comprendre. La direction du Parti communiste n'est pas dirigée par le marxisme-léninisme. Le marxisme-léninisme, au sens du PC, c'est un ensemble de corps de doctrine dans lequel on va puiser les éléments qui justifient la stratégie politique qu'on a adoptée. Alors, et la stratégie politique du PC jusqu'en 77-78, c'est reproduire le Front populaire. Le Front populaire, c'est le moment où l'union de la gauche bénéficie au Parti communiste. Hein, en 1936, le PC passe de 10 électeurs élus en 1932 à un corps électoral de plus de 70 de 10 électeurs, de 10 députés à un corps électoral, à un corps de députés de plus de 70 députés. Il passe de 30 000, peut-être même moins, 25 000 adhérents, à plusieurs centaines de milliers, sans doute en 1937, 350 000, 400 000, quelque chose comme ça. Donc, pour tous ces dirigeants qui ont thorésiens, qui ont été formés, comme la Valdecrochet, etc., dans ce moment historique, ils veulent le reproduire. Et évidemment, pour le reproduire, ils acceptent aussi d'ouvrir un peu. Donc on va avoir un début de vie interne au sein du PC après 1956, avec des conflits idéologiques, philosophiques, Garaudy, machin, etc. Et beaucoup de choses. Et un droit de parole apparemment toléré, un droit de parole critique. En réalité, tout cela est accepté, mais à condition que ça ne touche pas l'appareil du parti et le corps de permanent d'origine populaire qui continue à le contrôler. Et donc, de ce point de vue-là, là, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, il y a effectivement des changements apparents auxquels beaucoup ont cru en disant oh, « le Parti communiste s'ouvre, c'est l'eurocommunisme, je ne sais pas quoi ». Mais en fait, en 1977, quand la direction du Parti communiste français se rend compte que ce qui est en train de se passer avec l'Union de la gauche, ce n'est pas du tout le Front populaire, c'est l'inverse. Elle part en étant plus importante dans le rapport des forces avec les socialistes, et elle arrive avec des élections partielles qui montrent que c'est les socialistes qui sont en train de bénéficier de cette union de la gauche. À ce moment-là, c'est la politique du repli, et là, on va avoir l'élimination de tous ceux qui étaient dont on tolérait les critiques. C'est-à-dire que la plupart des intellos commencent à foutre le camp à partir de 78. Entre 78 et 81, en 3 ans, c'est une saignée d'intellectuels. Et ensuite, c'est le départ, mais sur la pointe des pieds, ça, on n'en fait pas des gros titres, etc., de très nombreux militants qui se profitent d'un changement de logement pour ne plus reprendre leur carte, etc. Et là, on a cette espèce de crispation que va symboliser le deuxième marché. Le premier marché faisait rire dans la période du programme commun, etc., Monsieur le Cabache, tout ça, enfin les conneries. Et le deuxième marché, c'est le marché qui, de Moscou, soutient l'intervention en Afghanistan et va interdire toute évolution du PC. Et donc là, on a une espèce de... de dire ça, morlante, je ne veux pas dire ça parce que c'est un mot tellement employé par, à tort et à travers, mais on a une espèce de refermement progressif sur soi avec, vous parliez tout à l'heure d'une mort interminable, ben c'est ça, d'un certain point de vue, on n'en sort pas de ça, quoi. Alors on voit toujours des germes d'autre chose, mais ça ne donne jamais autre chose, parce que la matrice stalinienne, au sens où je l'entends, hein, pas criminogène ou je ne sais pas quoi, ça c'est pour les pays de l'Est. En France, il n'y a pas de crime, ça prouve bien que c'est plus important que ça. Cette matrice continue à orienter fondamentalement les comportements, malgré tout, ils n'arrivent pas à en sortir, quoi.
Alors, quand on préparait cette émission, on parlait de la crise que vit le PC. Alors, vous commenciez à évoquer, vous considérez que la crise du PC commence en 56. Donc, on serait à la 51e année. Enfin, on a un demi-siècle de crise du PC. Et alors, inversement, ce qui est... Enfin, peut-être vous pourriez expliquer comment vous datez ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un demi-siècle de crise à répétition, et finalement, l'organisation, il reste encore des choses, quoi.
Si j'avais une mauvaise blague à faire, la crise du Parti communiste commence au moment de sa naissance en 1920. Parce que, et ça, je suis en train de travailler un petit peu là-dessus pour un bouquin que je prépare, quand on voit ceux qui sont éliminés dans les années 20, c'est extrêmement intéressant, ou qui sont marginalisés. Parce que pour beaucoup, ce sont des intellectuels qui portent des revendications qui, 50 ans ou 60 ans plus tard, vont être des revendications portées par 68. Par exemple, Madeleine Pelletier, en psychiatrie, avec tout son combat féministe, qui est membre du Parti communiste pendant 2 ans. Elle va en Union soviétique. Par exemple, Célestin Freinet, instituteur qui essaie de renouveler les méthodes pédagogiques, qui va donner naissance à un des 3 grands mouvements d'éducation nouvelle français et inspirer tout un tas de pratiques pédagogiques d'instituteurs français qui est marginalisé dans les années 30 parce que, évidemment, lui, il part de l'idée que les enfants doivent écrire des textes libres au moment où on est en train, dans le monde stalinien, de dire qu'il n'est pas question d'écrire autre chose que ce qui a été écrit par d'autres. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il va être liquidé, c'est-à-dire symboliquement, bien entendu, pas physiquement, symboliquement, une campagne contre lui dans la Nouvelle Critique. En le traitant de petit bourgeois. Et puis, je pourrais prendre des tas d'exemples comme ça. Donc, là, on a une histoire assez curieuse, au fond, l'échec du communisme, au sens où On peut rêver, on a le droit de rêver, c'est pas interdit sur cette radio, j'espère. Donc, si on souhaite un parti politique qui soit un parti politique à la fois ancré dans les classes populaires, fabriquant un personnel politique populaire, et en même temps porteur de ce qui sont, pourrait être de multiples terrains de lutte contre toutes les formes de domination, on avait quelque chose de cette nature-là qui... pouvait prendre forme, dont on peut, on a le droit de faire un peu d'histoire contrefactuelle, qui aurait peut-être pu exister. Bien entendu, c'est un peu, c'est idiot de dire ça, mais en même temps, c'est intéressant. Et bon, ben, ça n'a pas été le cas, parce que le Parti communiste qui s'est construit contre. Ces porteurs de critiques, qui étaient des marginaux, des poètes, des machins, enfin, toute une série de gens qui, dans une certaine mesure, alors, les plus connus sont les surréalistes, mais il y en a bien d'autres, hein, qui ne rentraient pas là-dedans. Donc la réussite, à certains égards, est aussi une réussite dès le début, qui est une réussite problématique, parce que les conditions de cette réussite font que, en germe, si j'ose dire, les possibilités d'une histoire bureaucratique, stalinienne, avec le développement de trucs extrêmement durs, alors ça donne le réinvestissement par le Parti communiste, parce qu'il faut le dire quand même, à partir des années 30, le réinvestissement des valeurs traditionnelles. Pédagogie traditionnelle, sexualité, famille, etc., etc. Jusque dans les années 60, le PC est complètement à contre-courant, peu progressivement, de toutes ces évolutions qui se produisent dans la société. Et pourquoi ? Parce que le stalinisme, en fait, s'accommode très bien, justement, de ce qu'il y a de plus traditionnel dans les rapports sociaux, puisqu'il s'agit d'inculquer, d'imposer. De fabriquer un individu à l'image du modèle qu'on a décidé de créer. Donc on voit ça en pédagogie, par exemple. Vous avez des textes incroyables de pédagogie dans l'International des travailleurs de l'enseignement jusqu'en 1932. Et puis à partir de 1931-1932, comme en Union soviétique, Staline est dit bon, il faut revenir au manuel, revenir à l'enseignement traditionnel, les blouses et compagnie, etc., etc. L'autorité chère à Sarko, donc qui est très stalinienne, il faut quand même... Non, je n'aurais pas dû dire ça. Mais enfin, là, j'ai dérivé un peu. Bon, je reviens sur mon truc. Enfin, en tout cas, ces rapports très traditionnels d'autorité sont effectivement associés à des modes de domination. Hein, et ça, c'est quand même l'échec. Donc l'échec, peut-être qu'il vient de très très loin, quoi, à certains égards. Ceci étant dit, c'est vrai. Par contre, je vais quand même modifier un tout petit peu ce que je dis, s'il y a encore 3 secondes. Il est vrai que le Parti communiste, même stalinisé, rencontre à ce moment-là une classe ouvrière qui est en train de se constituer, française, qui se stabilise, bon ça c'est tous les travaux de Noiriel, qui est une classe ouvrière qui par ailleurs s'organise syndicalement, etc., etc. Et le PC va aussi participer à l'organiser, c'est la CGTU, puis la CGT, etc., etc. Et donc il y a une espèce de coïncidence là, quand même, qui va donner les résultats électoraux et l'intérêt de ce parti, historiquement. Coïncidence qui n'existe plus au fur et à mesure qu'on a une classe ouvrière émiettée, renouvelée, disqualifiée, etc., etc. Bon, voilà.
Quoi ? Oh. On va jouer une chanson en fait, qui est un petit peu d'actualité. On l'a jouée pour la première fois il n'y a pas très longtemps, c'était le 10 mai.
Ah bah.
Et donc ça tombait bien, parce que c'était un anniversaire assez célèbre, hein, le 10 mai 81. Vous savez bien ce qui s'est passé le 10 mai 81.
François ?
La mort de Bob Marley.
Bob Marley.
C'est Bob Marley. Ouais, bah, effectivement. Non, c'est effectivement le 10 mai 81 qui accédait au trône François Mitterrand. Et,
oh là là là.
Bon, et donc, en fait, c'est une chanson en fait, sur... un petit peu sur mon enfance, une chanson un petit peu autobiographique, hein, on peut dire si, ouais, carrément. Parce que mon père était communiste, en fait.
Oh
et
non.
Donc voilà.
Ok.
Bon, je m'appelle Yvan, communiste.
C'est déjà bien de le dire, c'est déjà un grand pas.
On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier, mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité, mon père était tellement de gauche, on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge.
La 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 la.
On a été en URSS l'hiver, les pays de l'Est, c'est mieux l'hiver, on voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris, ça flash sur le blanc. devant la statue de Lénine. Pour nous c'était le grand frisson, moins 24 c'était pas terrible. Mais les chapkas étaient en option, mon père était tellement de gauche. Quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Gaston pour acheter des pardons. On mangeait des Leninsburger, fallait vraiment faire attention. Il y avait du chou, une pomme de terre, la viande, elle était hors d'option. On achetait du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie c'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'International, les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. Mes copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 81 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. Les élections, des fois, peut-être avec un petit bon là, c'est un dimanche, peut-être un peu pas, la gauche, allez!
Pierre Mauroy, le Premier ministre, nomme quatre ministres communistes dans son premier gouvernement. Charles Fitterman.
J'ai pensé aux millions de gens qui, dans ce pays, pendant tant d'années, se sont sentis en quelque sorte tenus à l'écart, un peu méprisés, qui sont des exploités, et qui, par les nombreux témoignages que j'ai reçus depuis hier, ont maintenant le sentiment d'être reconnus, disons, d'avoir une place dans les responsabilités, d'être traités à part entière.
Jacques Ralit.
Si on a de la culture, une définition non étroite, mais globale, eh bien, je pense à ce que les travailleurs, par exemple sur la santé, réclament. Le droit à la santé, ce sont des faits de culture qui ne sont pas résolus. Le droit à la santé dans ce pays. Alors, je pense que l'on peut travailler sur cette question, même si on avait une spécialité antérieure, puis je vous avoue, je ne la perdrai pas.
Il faut...
Et oui, donc on est dans les oreilles loin du front, et on parle de l'évolution du Parti communiste avec Bernard Pudel. Et Pierre, tu voulais donc ignorer ce passage des grèves des pauvres petits cons, pour reprendre le mot de Jean Ferrat, de mai 68, puisqu'on y consacrera une émission avec Bernard Pudel encore un peu plus loin quand le livre qu'il coordonne sur le sujet sera publié.
Parce que maintenant, Bernard Pudel vient tous les 15 jours.
Et donc, on passait outre mai 68 pour en venir au programme commun.
Voilà, à la fois en revenir sur tout ce processus qu'il y a eu de rapprochement du Parti socialiste, de la création d'un programme commun, de la rupture et puis finalement de la participation en 80 au gouvernement. Qu'est-ce que c'est que ce processus et en quoi on a l'impression que le PC est pris à un piège qu'il pensait tendre et dans lequel il est tombé?
Absolument. Alors là, c'est effectivement ce qu'on vient d'entendre de Fitterman. On voit tout de suite la grande joie de Fitterman à ce qu'il y ait des ministres communistes dans un gouvernement socialiste. Autrement dit, les dirigeants communistes en 81, ils sont obligés d'aller au gouvernement. Ils sont obligés parce qu'une partie de leur électorat ouvrier a commencé à les quitter dès 78. Il faut jamais oublier ça. Une partie de la classe ouvrière n'accepte pas l'abandon de la politique d'union de la gauche. Et c'est le PC, le premier, qui en paye les pots cassés. Dans une certaine mesure, ils sont donc conduits à soutenir, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, à soutenir l'expérience mitterrandienne, à rentrer au gouvernement, en espérant, en réalité, limiter les dégâts, que ça ne va pas durer, etc., etc., ce qui va être le cas. Mais c'est vraiment, je dirais, à contre-cœur, dans une certaine mesure. On le sent bien, d'ailleurs. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de désir. On n'est pas à la libération. On n'a pas affaire à la mise en place de la sécurité sociale ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas derrière un grand combat auquel le Parti communiste participerait. Et donc, dans une certaine mesure, quand l'expérience socialiste va se solder en 83-84 par l'échec de cette longue histoire, ben, le Parti communiste va en profiter pour quitter le gouvernement en espérant que le Parti socialiste allait lui-même se fatiguer ou s'éroder au pouvoir, en tout cas que les difficultés du pouvoir allaient bénéficier au Parti communiste. Mais une fois de plus, c'est une erreur. Parce que malgré tout, même si le Parti socialiste va avoir de plus en plus de difficultés à se maintenir et va être contraint à des alliances, à des évolutions idéologiques qu'ils vont déplacer vers la droite, comme on le voit bien aujourd'hui, pour ne pas dire plus. Donc même dans ce contexte-là, le Parti communiste ne va pas bénéficier de ce déplacement. Quoi. Ça continue, c'est la mort lente, quoi, entre guillemets. Tous les calculs qu'ils font, dans une certaine mesure, sont des calculs aveugles. Voilà, parce que l'impensé de l'histoire stalinienne qui pèse sur eux, bah, par définition, c'est un impensé. Et par conséquent, ça les conduit à des tactiques à courte vue, et pas du tout à ce qu'il aurait été éventuellement nécessaire, c'est-à-dire à une réinvention d'un rapport aux classes populaires, cette fois non stalinien.
Même, justement, sur ce rapport stalinien à la structure du parti, bon, un phénomène qui est marquant, c'est la difficulté de lâcher un droit de tendance ou quelque chose comme ça à l'intérieur du PC. Quoi.
Absolument. Absolument. Et pour une raison, entre guillemets, bien simple, c'est d'ailleurs, c'est un des... Encore aujourd'hui... Encore aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'avoir une sorte de débat au sein du Parti communiste, opposant des lignes, des camps, etc., etc. Donc il y a une culture de l'unité du parti, de l'unité de l'appareil, qui interdit toute évolution. Parce que on pourrait penser qu'une bataille d'idées, c'est une bataille à l'occasion de laquelle se reconfigurerait quelque chose. En tout cas, là, c'est tout à fait impossible, d'où le départ. Des gens qui sont en position critique. À un moment ou à un autre, ils quittent. Quoi, hein, et chacun a son rythme, chacun se désengage en fonction de logiques diverses, suivant qu'il soit un intellectuel, suivant les secteurs. Mais on a toujours cette espèce d'épuisement et d'interdit sur la démocratie interne. Quoi.
Alors, moi, je voulais... poser une question parce que j'ai toujours pas compris ce que c'était et peut-être qu'aujourd'hui je pourrais savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la mutation proposée par Robert Hue ? C'était une époque où au PC on parlait plus des camarades ni des prolétaires, mais on parlait des gens et on était en mutation. Mais c'est même pas une blague, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire.
Ce que ça veut dire. Je crois que Michel Auferlet, dans le petit que sais-je qu'il a consacré au parti politique, a une formule qui me semble tout à fait pertinente. Qui est qu'un parti politique, c'est pas une chose. Autrement dit, après tout, un parti politique, ça change, ça peut se transformer complètement, ça peut garder l'étiquette en étant différent. Donc la question à laquelle est confronté le Parti communiste, c'est de savoir quel est le type d'évolution dont il va être l'objet. Les dirigeants communistes, on peut plus bêtes que les autres. Ils savent très bien qu'il faut reconfigurer quelque chose. La question, c'est quoi ? Alors, Robert Hue a essayé, en ce qui le concerne, d'afficher officiellement cet objectif de reconfiguration du parti, avec, dans le cas français, une grande difficulté. C'est qu'à la différence du cas italien, la social-démocratie occupe le territoire. Et par conséquent, une reconfiguration social-démocrate est impossible. Donc il fallait trouver une reconfiguration, je dirais, sur soi-même, enfin, en fidélité avec soi-même, ce que je disais tout à l'heure. Et ça aurait supposé effectivement des débats interne au parti, volontairement conduit, avec le désir effectivement de faire exploser cette affaire-là. Alors Robert Rue et ses conseillers, en particulier Blotin, qui était un des responsables du parti, qui vient de sortir un petit bouquin où ils ont essayé de participer à cette mutation, leur thèse à eux, c'est qu'ils n'ont pas osé aller assez loin dans le débat interne. Autrement dit, ils ont essayé de conduire cette mutation sans véritablement créer les conditions d'un brain trust, enfin d'un brainstorming plutôt de l'intellectuel collectif qu'est le communisme. Et bon, du coup, ça a échoué. Alors, la dérive Robert Rue, ça a été que la mutation, elle a été surtout formelle. Elle a été dans des coups, l'écoute des sondages, la liste bouge l'Europe, des conneries. On voit une dérive d'ailleurs de l'appareil huiste constamment en prise avec l'idée que la mutation, ça pourrait être du marketing politique. Et ça, c'est toujours pareil. Le marketing politique, ça fonctionne quand on est soi-même une entreprise politique d'un certain type. Un parti communiste, je ne crois pas que le marketing politique puisse le sauver. Ça ne peut pas sauver plus le parti communiste que ça n'a sauvé les partis communistes dans les pays de l'Est ou je ne sais pas quoi. Hein, donc là, il y a effectivement une sorte d'impossibilité. Et Robert Rue symbolise, quoi qu'il en est, quel que soit son désir, cette impossibilité. Le texte qu'il publie, qu'il n'a pas écrit, bien entendu, sur la mutation, au moment où il accède à la direction du parti, n'est pas mauvais. Hein. Il va très très loin dans la critique du stalinisme, etc. etc. Donc il y a une certaine perception de tout ce qui ne va pas. Mais il n'y a pas de perception du risque qu'ils doivent courir. Et pour dire les choses clairement, le risque qu'ils doivent courir, c'est ça, j'ai pas bien répondu à ta question tout à l'heure, le risque qu'ils doivent courir, c'est que quand on accepte le débat d'idées, on accepte la concurrence avec d'autres personnels politiques. Alors ce personnel politique ouvrier ou d'origine populaire, dans une certaine mesure, ce qu'il craint, et ça c'est explicite chez Marché en 77-78, ce qu'il craint, c'est que le débat ne favorise la promotion d'un autre personnel politique, et en particulier des intellectuels. Et les intellectuels au sens large du terme, les éducateurs, les profs, etc., qui sont tous rentrés au PC après 68. Le Parti communiste après 68, c'est un parti très intellectualisé, avec effectivement un personnel politique qui est en train de se fabriquer contre le personnel politique stalinien. Et du coup, la mutation, c'est toujours ce risque. D'où le refermement de l'appareil sur lui-même avec Marie-Georges Buffet, où on a à nouveau ceux qui vivent des prébendes du parti, dans les municipalités, les élus, etc. Bon, je dirais qu'il faut qu'ils acceptent de mourir. Ou en tout cas, de mener le combat de telle sorte qu'à l'occasion de ce combat, ils se régénèrent et ils fassent des alliances, au lieu de vivre uniquement le débat d'idées comme une concurrence qui les met en cause dans leur existence politique et dans leur réussite. Voilà, c'est ça qu'ils n'ont pas réussi, me semble-t-il, à gérer. Je ne sais pas si c'était gérable.
Alors, il y a eu un autre événement politique marquant récemment dans cette campagne présidentielle de 2007. Ça a été la candidature Beauvais qui a été rejoint par une partie non négligeable de l'appareil et des militants du Parti communiste. Et en 88, la candidature dissidente du PC, dans ce dont j'arrive à me souvenir, avait très peu empiété sur le territoire du PC organisationnellement. Autant cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est pas un point de détail de l'histoire du PC, ce qui vient de se passer.
Non, bien sûr. Il y a au sein du Parti communiste, pour autant qu'on puisse s'y repérer, parce qu'on n'a pas à faire des tendances constituées, etc., mais il y a manifestement une constellation qui est ce qu'ils appellent le pôle de radicalité, hein, c'est-à-dire effectivement une mutation assumée qui irait du côté d'une nouvelle forme de radicalité en alliance avec les nouveaux mouvements sociaux, etc., et un certain nombre de cadres du parti pensent que c'est la seule façon de rester fidèle à cette histoire. Après tout, tous ces mouvements sociaux n'ont pas de parti politique qui a cette expérience de la vie politique légitime dont il pourrait se saisir. Et il y a là une tentation. Et José Beauvais pouvait symboliser ça, d'où le soutien de Brauzek, par exemple, qui est instituteur, qui est dans une municipalité où il est confronté à toute une jeunesse intellectuelle au sens très large du terme, très mobilisée, etc., et qui voit bien que peut-être c'est une des cartes à jouer. Donc là, effectivement, c'est une tentation, en tout cas.
Alors l'émission va bientôt se terminer. Je voulais juste vous demander un petit peu quand même quel regard vous portez sur l'ensemble de la gauche aujourd'hui. On a beaucoup parlé du PC, mais ce qui se passe à sa gauche, ce qui se passe à sa droite, comment vous quel regard vous portez sur le champ de bataille?
Eh ben je crois que je suis comme beaucoup, hein. Je vais pas être très original, j'en ai bien peur. C'est évidemment une situation totalement catastrophique que nous vivons pour ceux qui s'identifient à la gauche, quelle qu'elle soit. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. En ce qui me concerne, j'ai absolument pas de solution ou d'idée de solution. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, en tout cas, chaque organisation a suivi la pente bureaucratique de son organisation. Dans ce sens, la Beauvais, je ne suis pas du tout d'accord quand il dit « moi, je suis le seul non-membre d'une organisation ». Oui, mais forcément, il joue la carte charismatique. Par définition, celui qui joue une carte charismatique, il ne se représente pas au nom d'une organisation, mais il est comme les autres. Il a joué une carte qui était une carte, en définitive, segmentaire, quoi, quelque chose comme ça. Bon, c'est le cas de la Ligue, c'est le cas de toutes les organisations de la gauche. Quant au Parti socialiste, bon, je crois que les choses sont claires. Hein, on a là de très bons bouquins, il y a un très bon livre de Lefebvre et Savicky qui montre à quel point ce parti s'est progressivement lui aussi vidé de toute relation avec son système d'action. Allègre, qui est en train de fricoter avec Sarkozy, c'est quand même la vérité, si j'ose dire, de l'abandon par le Parti socialiste de son propre système d'action. Toutes les relations qu'il a entretenues depuis 1920 avec le corps enseignant, avec les instituteurs, avec la laïcité, etc. Et on voit qu'à un moment donné de l'histoire du Parti socialiste, alors c'est une autre émission, mais à un moment donné de l'histoire du Parti socialiste, celui qui va symboliser cette histoire, c'est Allègre. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans une certaine mesure, fait état de sa haine, quasiment, pour les enseignants. Enfin, c'est le monde à l'envers. Donc cette histoire-là, ben, il va falloir que les uns et les autres en fassent le bilan. Alors, évidemment, il n'y a qu'un tout petit espoir, c'est que cet état de décomposition soit tel, parce que les législateurs, je ne veux pas surtout vous faire de prophétie, mais ça risque de pas être, ça risque d'être la Bérézina, hein, faut être clair. Donc
c'est des paris à peu de frais. Là,
oui, oui, c'est parce que vous n'avez pas idée de l'idée que je me fais de la Bérézina. Donc on en discutera. J'espère me tromper, mais ça peut être vraiment pas mal. Et donc en tout cas, on peut espérer qu'il y aura une sorte d'électrochoc. Alors moi, mon espoir, c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui, en définitive, se reconnaissent absolument pas ni dans Beauvais ni dans aucune organisation et qui parviennent à faire entendre une voix qui consiste à dire « ça suffit les conneries, quoi. Ça suffit, il faut absolument trouver des formes politiques où ces intérêts d'organisation deviennent secondaires pour essayer de créer un pôle de gauche qui soit une gauche de gauche, comme disait Bourdieu, c'est-à-dire une gauche qui se nourrit pas d'un utopisme gratuit et qui ne sombre pas dans un réformisme carriériste. Et donc il faut essayer de trouver cette voie intermédiaire. Je ne sais pas si c'est possible, mais franchement, je ne vois pas, en tout cas, la seule chose que j'aimerais, c'est que quelque chose comme ça puisse prendre forme. Et j'ai l'impression d'être comme beaucoup, c'est-à-dire d'être sans représentant à gauche, où que ce soit. Voilà. Et je crois qu'on est très, très, très nombreux dans ce cas-là.
Vive le drapeau victorieux de Marx, Engels, Lénine et Staline. Vive.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission entièrement animée avec la bouche par le comité central de la Radio Libre. Alors ce soir à nos côtés, il y avait Bernard Pudal qui après son échec au PCF a dû piteusement se rabattre sur l'université française pour gagner sa vie. Il y avait dans le rôle de Madeleine Pelletier, celle qui tente de réformer la technique de réalisation radiophonique aujourd'hui, c'était Juliette. Dans le rôle de Louis Aragon, il y avait celui qui s'approche
proche de l'avant-garde du rock'n'roll sans jamais se départir de sa morale de fer bolchevique. C'était Guillaume Yom. Et puis dans le rôle de Jeannette Vermeersch, l'accent en plus, la morale en moins, on avait Emmanuel. Et puis dans le rôle de Michel Dardenne, celui qui peut ouvrir une jupilaire simplement avec la force de sa pensée matérialiste historique, c'était Cédric. On vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.